ça va, ça fait comme ça. OK, donc ce soir, on va voir ce qui est convenu d'appeler le troisième point du calvinisme, qui est qu'on appelle la rédemption particulière. La plupart des auteurs, quand on étudie les doctrines de la grâce, s'entendent pour dire que cette notion-là de rédemption particulière, c'est vraiment le cœur du calvinisme, le cœur du christianisme, le cœur de l'Évangile. Alors, c'est quand on utilise l'acronyme TULIP en anglais, qui est le T pour Total Depravity, le U pour Unconditional Election, le L pour Limited Atonement, le I pour Irresistible Grace, puis le P pour Perseverance of the Saints. Donc, en français, c'est simplement la corruption absolue du cœur de l'homme, comme premier point, comme deuxième point, l'élection inconditionnelle de Dieu, le troisième point, la rédemption particulière. Le quatrième point, la grâce irrésistible. Et le cinquième point, qui est la persévérance et la préservation des saints. Là, ce soir, on est au milieu du système, on regarde la rédemption particulière. C'est ce qu'on qualifie souvent dans les livres de théologie de... On dit le test à l'acide, souvent, si on veut vérifier si un métal est vrai, on va prendre une goutte d'une acide, on va le mettre sur le métal, et si le métal ne font pas, ça prouve que le métal est vrai. Alors, on dit souvent de cette doctrine-là, qui est celle de l'émission d'Atonement en anglais, ou rédemption particulière, on dit souvent que c'est le test à l'acide pour voir si ton système théologique reflète, est vraiment biblique. C'est sûr que la position qu'on va prendre sur cette doctrine-là, qu'on appelle la rédemption particulière, va venir refléter la notion de Dieu. Alors, cette doctrine-là est mal comprise, ça va affecter ta notion de Dieu, ça va affecter aussi la notion qu'on a de la loi, les 10 commandements, la loi morale. Et ça va affecter aussi la doctrine de l'homme et la doctrine du péché. Parce que dans le fond, un système théologique, ça se tient tout, et peu importe la dénomination, et peu importe l'église dans laquelle on se trouve, le milieu dans lequel on se trouve, ont toutes des positions théologiques sur l'ensemble, sur un ensemble de choses. Que ce soit les témoins de Jéhovah, les Mormons, les Pentecôtistes, les Baptistes, qui que ce soit, ils ont tous un corps de croyances dont ils disent « ça c'est la pensée de Dieu sur tel sujet, tel sujet, tel sujet ». Alors, un système théologique, peu importe dans quel... Église qu'on se trouve, et quelle église locale qu'on se trouve, ou quelle dénomination, ou quelle tradition chrétienne on se trouve, c'est inévitable. Chacun a ses positions théologiques. La question de la rédemption particulière, ça pose la question suivante. Si on pourrait résumer tout l'ensemble de cette doctrine-là par deux phrases, on pourrait dire ça comme suit. Est-ce que Christ est mort pour rendre possible le salut de tous les hommes? Ou est-ce que Christ est mort pour rendre certain le salut de ses élus? Donc, c'est ça qui est la grande question, et je dois vous dire que c'est pas d'hier que le débat théologique dure depuis Paul, et il continue à se perpétuer jusqu'à aujourd'hui. Nous, notre position, c'est qu'on croit que Christ est mort pour rendre certain le salut de ses élus. Et on va expliquer pourquoi tout à l'heure, on va aller voir les versets. Il y a beaucoup de versets qui défendent et qui nous instruisent dans ce sens-là. Il y a aussi plusieurs personnes, j'ai lu ça aussi dans des livres, qui croient que c'est la doctrine de la rédemption particulière pour séparer ce qu'on appelle les brebis avec les boucs. J'ai entendu ça souvent dans les conférences. C'est parce que c'est une doctrine qui souvent est difficile à accepter au début, quand on n'a pas vraiment étudié les Écritures à fond, et qu'on entend ça pour la première fois, c'est toujours fait répéter que Christ est mort pour tous, et qu'on regarde vraiment avec attention ce que les Écritures disent. Quand Christ est dit, il est mort pour son Église, il est mort pour son peuple, il est mort pour les siens, et il s'est répété à maintes remises endroits, et là on va voir que dans le fond, les Écritures ne peuvent pas enseigner les deux en même temps. Il faut qu'il y ait un des systèmes qui soit faux. Alors, c'est ça qu'on va regarder ce soir, si notre système est basé sur les Écritures, si les Écritures défendent vraiment ce qu'on prétend être vrai. Donc, on va aller voir certains versets qui démontrent que les Saintes Écritures enseignent que Christ est venu, non pour rendre les hommes capables de se sauver eux-mêmes, mais bien pour sauver des pécheurs. Matthieu 1, 21. C'est dans le contexte que la Vierge va enfanter un fils. Et elle enfantera, verset 21, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Qui veut, le mot Jésus veut dire, Yehoshua en hébreu, qui veut dire sauveur. Alors il marque entre parenthèses cette sauveur, ça veut dire que ce n'est pas dans le texte grec. Là. Quand il y a un mot qui est en italique dans cette Bible-là, ça veut dire que ce n'est pas dans le texte original, dans le texte original grec, mais le mot Jésus. Ça vient de l'hébreu Yehoshua, et le mot Yehoshua veut dire sauveur. Alors Jésus, le mot Jésus veut dire sauveur. Et Christ veut dire oint, comme on l'a déjà expliqué, le roi oint, le sacrificateur oint, le prophète oint. Alors le nom de Jésus, car c'est lui, remarquez bien les mots, c'est lui qui sauvera, pas qui rendra possible le salut d'eux, qui sauvera qui, son peuple, le peuple son, c'est un article possessif, son peuple à lui, de leur péché au pluriel. On va en voir un autre. Luc 19, 10. Et comme je vous ai déjà mentionné, le fait que je choisisse certains versets comme ça, ça ne veut pas dire qu'on est allé voir tous les versets possibles sur le sujet. Parce qu'il y en a plusieurs et on ne les voit pas nécessairement tous, mais il y en a beaucoup. Luc 19, verset 10. Ici, c'est encore plus clair, c'est aussi clair que l'autre, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, il est venu chercher et sauver, pas venu chercher et rendre possible le salut, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 2 Corinthiens 5, 21. De Corinthiens 25, 21, là, on pourrait dire que c'est l'Évangile en un verset. Tu voulais avoir l'Évangile en un seul verset, là? 2 Corinthiens 5, 21 est un super de bel exemple que vous voyez tout l'Évangile dans un seul verset. Là, bon, ici, dans le contexte, on voit qu'il parle de Jésus-Christ. Quand on dit « car celui », celui c'est qui? C'est Jésus-Christ. « Car Jésus-Christ qui n'a point connu le péché », on sait que Jésus-Christ, dans sa chair d'homme, lorsqu'il est venu sur la terre, n'a jamais commis de péché de quelque nature que ce soit, ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission. Pureté parfaite. Non seulement n'avait-il point commis aucun péché, mais il en était incapable, parce que Dieu est incapable de pécher, et quand Jésus habitait sa chair d'homme, qui était incarné dans sa chair d'homme, il n'aurait pas pu commettre de péché. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'impeccabilité de Christ. Alors, celui qui n'a point connu le péché, non seulement n'en avait-il point commis, mais n'était incapable d'en commettre, il l'a traité, il, on parle de Dieu le Père, Dieu le Père l'a traité en pécheur, comme s'il avait été un pécheur, autrement dit, comme si. Bien, c'est pas qu'il n'en était un. Il l'a traité en pécheur pour nous. Nous, dans le contexte, c'est sûrement des croyants. Afin que nous, encore les croyants, nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Là-dedans, il y a deux choses importantes qui concernent Christ. C'est ce qu'on appelle l'obéissance active et l'obéissance passive de Christ. L'obéissance passive de Christ, c'est quand Dieu le Père a jugé en son Fils les péchés de ses élus. Autrement dit, un homme qui vit sa vie, disons, il est rendu à 70 ans. de toute sa vie, il a péché. Il y a eu une somme astronomique de péché. Un seul humilité en enfer pour l'éternité. Un seul. Ça nous montre jusqu'à quel point Dieu est saint. On oublie ça, on a de la difficulté à comprendre ça à cause justement de notre cœur dur, de notre état de pécheur. On a de la misère à comprendre jusqu'à quel point Dieu est saint et que la plus petite offense nous méritait d'être plongé dans le lac de feu pour l'éternité. Alors, ce qui s'est passé sur la croix, quand on appelle l'obéissance active, ici, là, il l'a traité en pécheur, c'est qu'il lui a fait subir l'équivalent de ce que nous, on aurait dû subir en enfer. Il lui a fait subir ça sur la croix, mais c'est l'ensemble des punitions additionnées de tous ses élus qu'il a subi sur la croix. Quand il a dit sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est que le Père l'abandonnait comme il aurait abandonné un pécheur dans l'enfer en lui faisant subir les tourments qu'un être humain subirait s'il serait plongé dans le lac de feu pour l'éternité. Mais Dieu a permis que ça soit compressé en une période de temps courte, de 3 heures sur la croix. Maintenant, quand on dit une autre chose qu'on oublie souvent dans les milieux chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on oublie ce qu'on appelle l'obéissance active de Christ. L'obéissance active de Christ, même si le Seigneur Jésus sur la croix aurait payé l'équivalent de la punition qu'on aurait dû subir, mais si ça en était resté là, le Seigneur aurait payé pour nos péchés. Mais est-ce que Dieu aurait pu nous accepter dans son royaume, dans l'état où on était là? La réponse, c'est non. Pourquoi? C'est parce que Dieu, non seulement, il ne fallait pas qu'on désobéisse à la loi, mais il fallait qu'on l'accomplisse. Il fallait qu'on lui obéisse en tout point, toujours, et non seulement à la lettre, mais dans l'esprit des 10 commandements de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'obéissance active de Dieu. Et de la même manière que Christ a subi notre punition à notre place, de la même manière, il a accompli la loi à notre place. Alors, si Dieu nous demandait à nous d'avoir obéi aux 10 commandements de Dieu toute notre vie sans avoir manqué une seule fois, Christ a fait ça à notre place. Alors, c'est les deux aspects qui sont ici dans le verset. Non seulement, il a payé pour nos péchés en subissant la punition qui nous était due à notre place, mais il y a une autre chose que ça dit, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Et la justice de Dieu, c'était qu'on obéisse parfaitement à la loi en tout temps sans manquer une seule fois. Mais c'est seulement en lui qu'on est devenu juste. Alors, c'est le verset qui démontre que Christ, c'est les péchés de ses élus qui a payé pour et non pour les péchés de tous les hommes. Et c'est pour la justice de ses élus qui a accompli. Alors, c'est à cause du fait que la punition a été portée par lui pour l'ensemble de ses élus. Alors, tous ceux qui étaient en lui, comme ça dit dans Éphésiens, ceux qui étaient en lui, le Père a jugé nos péchés en lui. Mais comme on était en lui, qu'on avait été placé là de toute éternité, quand Christ a accompli la loi à la perfection, parce que lui, sur la terre, il a mené une vie juste à 100%. Il n'a jamais manqué à la loi, de quelque façon que ce soit. Alors, à cause de nos péchés avaient été pardonnés, avaient été jugés en Christ, le Père pouvait nous imputer la justice de Christ. Imputer, ça veut dire mettre à notre compte. À cause du fait que Christ avait payé nos péchés, Dieu le Père pouvait prendre la justice de son Fils et la mettre à notre compte. Alors, quand Dieu regarde un chrétien, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une personne dont tous les péchés ont été pardonnés. Les péchés passés, les péchés de ce jour et les péchés de toute ta vie jusqu'à peine que tu décèdes. Alors, tes péchés de ta vie qui restent sur les croix, ils vont tous pardonner dans les 3 dimensions, passé, présent, futur. Non seulement il a fait ça, si ça avait été juste ça, il nous aurait manqué la robe de justice. Parce que le Seigneur, dans ses paraboles, il parle de la robe de justice. Il faut être revêtu de la robe de justice de Christ pour pouvoir vivre dans le ciel. Alors, Christ, le Seigneur, le Dieu, le Père, nous voit comme si on avait payé qu'on avait payé la punition, c'est comme si on l'avait subi nous-mêmes, mais c'est pas nous-mêmes qui l'a subi, c'est quelqu'un d'autre qui l'a subi à notre place. Alors c'est Jésus qui l'a fait. Puis la même chose pour la justice qu'il exigeait de nous, c'est le Seigneur qui l'a accompli à notre place. Alors 2 Corinthiens 25-21, c'est vraiment un bon verset pour nous. Galates 1, verset 3 et 4. Alors il dit, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Alors il parle ici de nos péchés dans le contexte, c'est évident que le « nous » est pour les chrétiens. Afin de nous retirer de ce siècle corrompu, selon la volonté de Dieu notre Père. Ok, 1 Timothée 1,15. Cette parole est certaine et digne de toute confiance, c'est que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Tite 2,14. On va commencer au verset 13. Même 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Là, ici, la divinité de Jésus-Christ est proclamée. De notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, il parle encore dans le contexte, c'est des élus, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. 1 Pierre 3,18. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit. Alors, les Écritures nous enseignent qu'à cause de l'œuvre de Christ, ce qu'on a dit tantôt, de son obéissance active et de son obéissance passive, son peuple a été réconcilié avec Dieu et que le Saint-Esprit leur est donné qui les régénère et les sanctifie. Romains 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant donc réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Éphésiens 2, versets 15 et 16. Ayant détruit en sa chair l'inimitié, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance, afin qu'il formât en lui-même des deux un seul homme nouveau après avoir fait la paix, et qu'en détruisant lui-même l'inimitié, il réconcilia avec Dieu par la croix les uns et les autres en un seul corps. Colossiens 1, versets 21 et 22. Là, il parle encore une fois dans le contexte à des chrétiens. Il dit, vous aussi qui étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible. Romains 3, verset 24-25. Et qu'ils sont justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu. Romains 5, versets 8 et 9. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. 1 Corinthiens 1,30. Or, c'est par lui, on parle de Jésus-Christ, que vous êtes, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a fait été de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, quand il a été fait malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alors, il y a une logique là-dedans. Si tous les hommes, si le Seigneur aurait payé pour les péchés de tous les hommes, il s'ensuivrait automatiquement que tous les hommes seraient sauvés. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de ce que c'est la justice active et l'obéissance active et l'obéissance passive de Christ. Si le Seigneur, dans son corps, aurait subi l'équivalent de l'enfer de tous les hommes, donc tous les hommes auraient été en droit de recevoir la justice de Christ, la robe de justice de Christ, et automatiquement, ce serait le salut universel. Et la Bible nous enseigne d'une manière très claire que ce ne sont pas tous les hommes qui vont s'être sauvés. Moi, personnellement, je suis sauvé, j'en ai vu comme ça. Personne, pas en nommé, sont morts, ils n'étaient pas sauvés. Alors, si Christ était mort pour tous les hommes et qu'il aurait subi l'enfer, l'équivalent de l'enfer de ceux que je crois sont morts, il faudrait logiquement qu'il soit sauvé. Alors, vu que la Bible n'enseigne pas ça, alors pour voir pour qui Christ est mort, et les Écritures répondent d'une manière assez claire. 1 Pierre 2:24. Quand on parle de lui, encore là, dans le premier mot, c'est sûrement Christ. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions à la justice, et par la meurtrissure de qui vous avez été meurtri. Alors, les Écritures nous enseignent aussi que le Dieu, à cause de l'œuvre de Christ, nous a fait le cadeau du Saint-Esprit par la régénération et la sanctification. Éphésiens 1, versets 3 et 4. Et c'est ici un verset très fort qui montre que Dieu, de toute éternité, avait choisi le nom des personnes qui devaient être sauvées de toute éternité. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus, parle du Père, le Père nous a élus en lui, lui c'est le Christ, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. Alors on voit ici que Dieu a choisi un homme précis d'hommes et de femmes qui, au cours de l'histoire, à partir du moment du début de la création, aller jusqu'à la fin des temps, Dieu avait choisi le nom, il avait écrit dans le livre de vie le nom des hommes et des femmes qui devaient recevoir le salut par grâce en Jésus-Christ. Et c'est eux et eux seulement que le Père jugeait les péchés des élus en lui. Philippiens 1:29. On voit dans le verset ici que on dit parce qu'il vous a fait la grâce à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Alors on voit une chose ici qui nous est mentionnée, c'est que croire en lui, c'est une grâce qui nous est donnée de la part de Dieu. C'est important de saisir ça. Actes 5:31. Commencer vers 7 ans, la chanson des 12. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez fait mourir le pendant au bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme le prince et sauveur afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Alors, il y a une chose qu'on voit ici, c'est que la repentance. Dans Éphésiens, ça dit que la foi est un don de Dieu. Ici, ça nous dit que la repentance est un don de Dieu. Et croire en lui, en Christ, c'est aussi une grâce de Dieu. Titre 2,14. Ça dit qui sait, encore là, ça parle de Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, le « nous » c'est les chrétiens, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier, de se former un peuple particulier, d'aller pour les bonnes œuvres. Je pense qu'on avait déjà parlé tantôt. Éphésiens 5, versets 25 et 26. Ici, ça en est un, peut-être, ça en est un très fort comme verset, là, pour démontrer que la mort était pour les siens, pour son Église. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Elle, c'est qui? C'est l'Église. L'Église, c'est qui? C'est les croyants. C'est son peuple. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Un verset très fort pour ça. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Hébreux 13, 12. C'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils, Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Nous purifie de tout péché. Alors, une des choses que le Seigneur venait faire sur la terre, c'était de venir rendre certain le salut des siens, de ses élus. Mais il y a une autre raison pour laquelle il venait, parce que dans les Écritures, il est déclaré qu'il y avait eu une alliance céleste dans le ciel entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, dans lequel chacun des trois personnes de la Trinité jouait un rôle. Celui du Père, c'était l'élection. Celui du Fils, c'était la rédemption. Et celui du Saint-Esprit, c'était la régénération et la sanctification. Alors, l'élection, c'est simplement, c'est que c'est le Père qui choisissait ceux qui étaient pour devenir l'objet, qui étaient pour devenir les personnes qui recevraient le salut. Il a pris ces personnes-là, il les a placées en Christ, et c'est les péchés de ces personnes-là que Christ a subis. Et c'est pour ces personnes-là que Christ a accompli la loi. Et au cours du temps, l'Esprit Saint connaît très bien ceux que le Père avait choisis, ceux que le Fils a rachetés. Et c'est eux qui, par les moyens que Dieu le Père lui-même a choisis, décident de la date de ta conversion. Alors chacun de nous qui est converti, le Père avait choisi une date à laquelle on viendrait au monde spirituellement, parce qu'avant, spirituellement, on était mort, comme dans Éphésiens nous dit. Donc, quelqu'un qui est mort spirituellement, c'est qu'il n'a pas de contact avec Dieu, il est complètement déconnecté de tout contact divin. Et s'il décède dans cet état-là, il s'en va en enfer éternité. Quelle chose terrible quand on y pense. On s'arrêtait là, vraiment saisir c'est quoi l'enfer. C'est une notion qui nous dépasse. Autant celle de Dieu nous dépasse. Quand on essaie de décrire les attributs de Dieu, ça nous dépasse parce que c'est. On dit de tous les attributs du Seigneur qui sont infinis. Alors, pour nous, essayer de saisir ce que c'est l'infini, c'est comme. On n'est pas capable de saisir ça vraiment. On peut monter haut, le plus haut que notre esprit peut monter. Puis encore, quand on est rendu dans le plus haut des hauts, là, il est encore au-dessus de ça. Et l'enfer, c'est la même chose. Quand on parle d'éternité, Puis on parle de quelqu'un qui est plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité, et qui va vivre hors de la présence de Dieu. Et dans la plupart des livres de théologie, ça c'est une chose que je tiens à répéter, parce que on est porté à penser que le plus gros de la souffrance dans l'enfer, ça va être le fait d'être entouré de damnés et être dans le lac de feu. Mais tous les théologiens qui parlent de l'enfer disent tous que la plus grande douleur des gens qui vont être dans l'enfer, ça va être d'avoir vu Dieu et d'en être privé. Ça va être pire que la douleur qu'ils vont sentir dans l'enfer, puis d'avoir toute cette masse de personnes-là qui vont hurler pour l'éternité, puis eux vont être dans un désespoir indescriptible. Mais le fait qu'ils se soient un jour présentés devant un Dieu si glorieux, ils vont avoir vu sa face, ils vont avoir vu son ciel, et là, le fait d'être privé de ça, là, ça va être... Puis d'avoir entendu Dieu les condamner, aller maudit dans le feu éternel, ça va être une phrase qui va leur tourner probablement dans l'esprit pour l'éternité. C'est quelque chose de terrible. Alors, il y a des versets l'Évangile de Jean, surtout dans l'Évangile de Jean, il y en a beaucoup, qui nous disent que Jésus est venu, que le Père lui a donné un certain nombre d'hommes et de femmes, en Jean 6, versets 35 et 40. Et Jésus leur répondit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez cru et vous ne croyez point. » Regardez bien ce qu'il dit ici. « Tout ce que le Père me donne viendra à moi. » Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est tous les hommes que le Père m'a donnés depuis l'éternité viendront à moi. Et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné. Ce n'est pas que le Père ait donné tous les hommes, c'est que tous les hommes sont sauvés. Alors, c'est seulement ceux que le Père a donnés à son Fils et pour lesquels lui a payé les péchés qui vont être sauvés. Aucun de ceux qu'il m'a donné, mais je l'ai ressuscité au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, je l'ai ressuscité au dernier jour. Jean 10, versets 11, 14 à 18, où on parle ici des brebis. Ici, c'est d'une clarté, là, c'est limpide, c'est limpide, 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 plus limpide que ça, là. C'est difficile à imaginer. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Moi, c'est comme difficile à... 14 à 18. Je suis le bon berger et je connais mes brebis. Et je suis connu d'elles, comme mon Père me connaît et que je connais mon Père. Et je donne ma vie, encore une fois, pour mes brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Alors, il parlait avec des Juifs. Il y avait certaines brebis qui étaient dans le peuple juif. Il était en train comme d'anticiper qu'un jour, après son départ, le salut va être annoncé aux gentils, donc aux nations, donc à nous. Quand il leur dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, donc de la bergerie des Juifs, le salut va s'étendre aux nations à cause de l'endurcissement des Juifs. Mais Dieu avait prévu ça dans son plan, mais dans le fond, c'est quelque chose de grandiose pour nous que les Juifs aient rejeté le Messie. Pas en soi, mais comme un sous-produit. Parce que dans Romains 9, quand on voit qu'ils l'ont rejeté, c'est comme si nous, on était greffés à leur place. Et jusqu'à temps que l'Église soit complète, quand l'Église soit complète, éventuellement, le peuple juif sera sauvé dans sa globalité. Qu'ils ne soient pas de cette bergerie, il faut aussi que je les amène, et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Voici pourquoi mon Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter, j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Alors, ce qui est à retenir ici dans ces passages-là, c'est qu'il dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Tout à l'heure, on a dit qu'il donnait sa vie pour son peuple. On a vu qu'il donnait sa vie pour son Église. Ça commence on parle de toujours les mêmes personnes, mais avec des noms différents. Ses brebis, son Église, son peuple. Jean 10, on est là un petit peu plus loin, à partir du verset 24. Les Juifs s'assemblèrent donc autour de lui et lui dirent, « Jusqu'à quand nous tiendras-tu l'esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes point de mes brebis. Ceux qui ne sont pas des brebis, qui ont été choisis par le Père, inscrits dans le livre de vie, le robot est descendre à tous les jours à Québec avec des haut-parleurs, lui parler du salut tous les jours, 24 heures par jour. S'ils ne sont pas des élus de Dieu, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais si tu es une brebis, Dieu dit, celui qui entend ma voix va me suivre. Alors, je vous l'ai dit, mes brebis, verset 27, mes brebis, ceux qui m'appartiennent, ceux qui m'ont été donnés par le Père, entendent ma voix. N'est-ce pas ce qui nous est arrivé quand on a été sauvés, mon ami? Quelqu'un nous a parlé de Dieu, quelqu'un nous a parlé de l'Évangile, quelqu'un nous a parlé de Christ, quelqu'un nous a parlé du salut, quelqu'un nous a parlé du péché. D'un coup, à un moment donné, on s'est comme ouvert. Moi, ma propre expérience, j'étais un grand pécheur avant d'être sauvé. Et on va parler de l'Évangile souvent. Puis, salut, ma pauvre. C'était pas mon jour. Il est arrivé un moment dans ma vie où quelqu'un est là, c'est comme... C'est ça, c'est que Dieu te donne la vie. Il te donne la vie spirituelle, et quand il te donne la vie spirituelle, l'Esprit de Dieu vient t'habiter, donc les choses qui concernent Dieu, les choses qui concernent le salut, tout ce qui concerne la Bible, le péché, tous les enseignements de Dieu commencent à t'intéresser. C'est parce que tu as une vie nouvelle. Parce que avant, comme les Écritures disent dans Romains, non seulement tu ne voulais pas, mais tu ne pouvais pas. Les deux. Alors, on était rendu, on voulait jusqu'au verset 8. Mais mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Je leur donne la vie éternelle, ne périront jamais, nul ne les ravira de ma main. Alors, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que ses brebis, celles que le Père lui a données, il va les sauver, il va les prendre d'un point, et il va les emmener jusque dans l'éternité. Et ici, un verset qui est très rassurant pour nous. Hier, je parlais avec un pasteur d'Ottawa, qui me disait, si le Seigneur permettait que Satan nous attaque directement, sans que Dieu vienne limiter ses moyens, on tomberait tous comme des mouches. Et à cause que Dieu dit ici, pour que Satan puisse venir nous travailler, puisse venir nous achaler, nous faire tomber, nous faire quoi que ce soit, ça lui prend la permission de Dieu. Et il va nous travailler ou essayer de nous faire tomber que dans la mesure où le Seigneur l'autorise. Mais s'il serait lâché, comme on dit, lousse, là, Dieu lui enleverait ses harnais, comme on pourrait dire, dont lui-même a les cordeaux. On a vu quand Dieu parlait, par exemple, par le livre de Job, on voit ça. Il a laissé Satan, mais on voit bien que Satan était toujours méprisé. Oui, tu peux lui faire ci, mais ne touche pas à ça. Mais tu peux lui faire ci, mais fais pas ça. Alors, mais si Satan nous l'offre à l'os pour nous autres, on serait tout fait à l'os. Mais ce que les Écritures viennent nous enseigner, c'est que Dieu, dans sa grande miséricorde, contrôle les actions des hommes méchants. Non seulement contrôle les actions des hommes méchants, mais contrôle les actions des démons et même de Satan lui-même. Et Dieu dit ici, on est dans le creux de sa main. Et ça, cette puissance-là, il y a rien qui ouvre ça. Maintenant, on va aller dans la prière sacerdotale. Tout le monde connaît la prière sacerdotale, Jean 17. Jean 17, qui est très prière, qui démontre que le salut est pour les siens. Jean 17, versets 1 à 11. Page 156. Jean 17, verset 1 à 11. C'est pas de la belle prière. En passant, là, il y a des livres complets, ça dépend, ils ont été écrits juste sur Jean 17, la prière sur la sable de table. Il y a des gens qui ont sorti, comme on pourrait dire, du jus là-dedans, c'est une grande, grande, grande richesse. Et quand on se met à fouiller cette prière-là, et à regarder tout ce que le Seigneur nous enseigne par cette prière-là, c'est vraiment fantastique. 26 versets, et il y en a qui ont fait des livres avec ça. C'est... Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. » Donne la vie éternelle, et c'est puissant comme verset pour la rédemption particulière, afin, lui a donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Le Père. Alors, c'est la doctrine de l'élection, la doctrine de la rédemption particulière. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. Quel était cet ouvrage-là? Accomplir la loi pour les siens. Subir la punition à leur place pour les siens. Son Église, ses brebis. Son peuple, d'autres mots. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avec le monde fut. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Il a manifesté son nom aux hommes que le Père lui avait donné parmi le monde, non pas tout le monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont connu véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. N'est-ce pas ce qu'on croit aujourd'hui, que Jésus, quand il est venu, c'est le Père qui l'a envoyé? C'est ça que ça dit. Ils ont cru que tu m'as envoyé. On croit que c'est Dieu le Père qui l'a envoyé. Je prie pour eux, qui est croyant. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux, et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. On va aller aussi un petit peu plus loin. Verset 20. Il dit encore une autre fois, « Or, je ne prie pas seulement pour eux. » Là, il parle dans le contexte des apôtres, de tous ceux des croyants du temps où ils étaient présents sur la terre. Mais il dit, « Mais aussi pour ceux qui croiront par leurs paroles. » Et aujourd'hui, si on croit, on croit par les paroles des apôtres, parce que les apôtres ont prêché, il y a eu des disciples qui ont été formés, ils ont prêché à d'autres disciples, les disciples ont prêché à d'autres disciples, les disciples ont prêché à d'autres disciples, et ça a traversé 20 siècles. On est rendu au 21e siècle, et le message est encore proclamé. Mais ça vient des apôtres. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Après ça, on va aller voir 24 à 26. Il dit, Père, je désire que ceux que tu m'as donnés, t'es encore fort, hein? Ceux que tu m'as donnés, c'est ceux que le Père a donnés, soient avec Jésus. Il dit, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi où je serai, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont connu, et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé, et je leur fais connaître ton nom, et je leur fais connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi-même je sois en eux. Il dit, un jour, là, on va, et on a beau lire les Écritures sur la gloire du ciel, mais quand on va voir Dieu en personne, toute la splendeur du ciel, là, à un moment donné, ça dit aussi dans les Écritures qu'on va se souvenir des Écritures. Les Écritures, on les oubliera pas. On va traverser l'autre bord. Et quand on va lire ou comprendre, mais je ne sais pas si on va avoir encore des écritures ou de bord, mais en tout cas, du moins, on va s'en souvenir certainement. Et que là, on va dire, on lisait le verset, il disait, afin qu'il contemple. Le mot contempler, là, c'est comme une admiration béate. Là. Tu sais, des fois, là, tu arrives devant certains paysages, des fois, là, puis t'es tellement c'est beau, c'est comme tout vire à l'envers. Là. Mais quand tu vas voir Dieu, ça, c'est une création. Là. Le soleil, c'est une création. Certains coups de soleil, je suis ébloui. Je contemple la nature de Dieu, je suis ébloui. Imaginez ce que ça va être quand on va contempler Dieu lui-même. Beauté absolue, beauté infinie. Tout va être glorieux, on va jubiler. On va jubiler. Alors quand on va relire, ou du moins que ces versets-là vont nous remonter, la gloire, on va voir Jésus dans sa gloire, on va voir le Père dans sa gloire, le Saint-Esprit dans sa gloire, on va voir les autres saints dans la gloire, on va voir aussi les anges, et un jour, on va tous chanter ensemble, en l'unisson à Dieu, ça va être... Moi, des fois, j'étais dans des églises où on était juste 200, qu'on chantait à l'unisson des superbes beaux chants. Ton âme vient tellement élevée, là, que tu... on disait direct, t'es pour une seconde, t'es quasiment au ciel. Mais quand qu'on va être au ciel, qu'on va être des millions, on parle de centaines de millions de chrétiens, et il va y avoir les anges dans le ça. Il va peut-être avoir des musiciens d'une qualité supérieure qui vont ne pas chanter des chants. Ça va être une musique. Oui. Jésus-Christ trouve la source de son œuvre dans l'éternel conseil de Dieu. On l'a vu tout à l'heure, on va y retourner dans Éphésiens. C'est important, Éphésiens. Éphésiens 1, verset 3 à 12.
262.
C'est-à-dire comme Réal Carrier nous disait, pasteur Joël et Laville. C'est vrai qu'il disait ça. Hein? Moi, je m'en souviens plus. Je vais essayer de le retrouver dans le. Mes amis, oh, il disait ça comme ça. Mes amis, quand il parlait, il parlait du ciel, il disait, mes amis, un jour on va comprendre ça. Mes amis. C'était 1 verset 3 à 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes par Christ. Alors ça ici, ce verset-là, c'est important de méditer un peu ce qu'il veut dire. Ça veut dire que Dieu, de toute éternité, avait prévu qu'en Christ, tout ce qu'on pouvait avoir besoin sur cette terre, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, tous nos besoins. Dieu a mis une quantité astronomique de bénédictions spirituelles, les a placées en Christ. Il nous suffit d'aller au trône de la grâce et de les demander. C'est ça que ça nous dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ. Avant même qu'on soit au monde, on était déjà bénis. Selon qu'il nous a élus en lui, c'est Christ, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. Alors, c'était Dieu le Père dans sa souveraineté absolue qui a décidé de placer qui en Christ. Et c'est les heureux élus qui vont jouir de tout ça, dont on est aujourd'hui les représentants. Gloire à Dieu. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a donnée gratuitement, qu'il nous a gratuitement accordée en son bien-aimé. En qui nous avons la rémission par son sang, la rémission des péchés, la rédemption, c'est-à-dire par son sang, la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce, qu'il a répandue sur nous, abondamment par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même et qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir réunir toutes choses en Christ, tout ce qui est dans les lieux, dans les cieux et ce qui est sur la terre. C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés d'après le décret. Un décret, là, c'est une décision divine. C'est quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui ne peut pas changer. À partir du moment où Dieu avait décidé des noms de ceux qui étaient sauvés sur la terre, il n'y a rien, rien, rien qui peut changer ça. C'était, quand on dit, d'après le décret de celui qui opère toutes choses, d'après, selon le dessein de sa volonté, quand on étudie la doctrine de la souveraineté de Dieu, on a passé 3 semaines sur la doctrine de la souveraineté de Dieu, et on a vu la doctrine des décrets. Dans le fond, le décret de Dieu, c'est non seulement le salut de tous ceux qui devaient être sauvés, mais c'est l'ensemble de tout ce qui se passe sur la terre, ça avait été décrété par Dieu. Verset 12, « Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espérés en Christ. » Maintenant, une chose qui est intéressante à comprendre, c'est que comme c'est à cause de Adam que l'humanité a hérité d'une nature pécheresse, et à cause de la nature pécheresse, a hérité aussi de 3 formes de mort. La mort physique, la mort spirituelle, et la mort éternelle. Alors, la mort physique, on a tous vu des gens mourir autour de nous, on sait ce que c'est. La mort spirituelle, c'est que tu vas aller voir des gens, et tu vas leur dire, selon les Écritures, Dieu dit que tu es mort spirituellement. Dis ça à quelqu'un qui n'est pas sur le droit, tu vas le voir le lever sur sa chaise, comme on dit. Il n'accepte pas l'idée. Moi, mort, pas mort, je suis vivant, quand je te parle. Oui, mais t'es vivant. Mais tu es mort spirituellement. Spirituellement, ça veut dire que tout contact est coupé avec Dieu. Et que si tu meurs dans cet état-là, non seulement là, tu vas être mort physiquement, tu vas être mort spirituellement, mais là, tu vas connaître la grande mort, la définitive, l'éternelle, celle dont sinon tu ne reviens pas. Alors, comme Adam, on était en Adam, et le verset qui dit ça, c'est Romains 5.12. Je dois vous dire que Romains 5.12, si vous en allez chercher dans tous les commentaires qui ont été écrits sur Romains 5.12, vous allez voir que c'est un verset qui dit ce qu'il dit, mais qui est difficile. C'est-à-dire, il n'est pas si difficile que ça, c'est parce que les hommes cherchent à comprendre, ils cherchent à l'expliquer. Si tu as Romains 5, verset 12, page 217, que ça dit? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Bon, le seul homme, c'est qui? C'est Adam. Autrement dit, à cause d'Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, ses 3 formes. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et ici, dans le grec, le mot « ont péché » est au passé. Ce que le verset est en train de dire, c'est qu'à chacun de nous, tous les hommes qui sont sur la terre, d'une manière dont les Écritures n'expliquent pas, on était en Adam et on a péché en lui. De quelle manière, là, les théologiens, là, ils n'ont écrit des gros bouquins pour essayer d'expliquer ça, puis toutes sortes de théories, toutes sortes de théories. Moi, je me dis, qu'est-ce que ça donne d'essayer d'expliquer des choses dont Dieu n'a pas dit comment ça s'était passé? Les Écritures nous disent que tous ont péché, ça veut dire tous les êtres humains, sans exception, d'une manière dont les Écritures ne révèlent pas. On était en Adam. Et si on avait eu le choix, on était placé devant le choix d'Adam, on aurait fait exactement la même chose que lui. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais enseigné par des catholiques, et on me disait à cause d'Adam, aujourd'hui, c'est tout à la mal, des péchés, puis tout ce que tu voudras. Je me disais dans ma petite tête, pourquoi? Moi, si j'avais été là, il me semble que je n'aurais pas tombé. Tu sais, je me disais ça. Je me disais ça de même. Là, je voyais, tu sais, que. Mais je ne connaissais pas les Écritures, puis je ne connaissais pas Dieu, ce moment-là, je n'étais pas sauvé. Mais quand tu commences à lire les Écritures, puis ces versets-là, je vous le dis d'avance, si vous allez voir toutes les livres qui ont été écrits sur Romains, vous allez voir que Romains 5.12 est un verset qui. Les hommes, on cherche à l'expliquer. Moi, je me dis, je n'ai pas d'affaire à expliquer ce que Dieu dit. God said it, it settles it. Dieu l'a dit. On était quelque part en Adam, de quelle manière, je ne sais pas. Le verbe est au passé. Ça dit que tous, on a péché en Adam. Mais ici, ce que je veux vous faire voir, c'est ce qu'on appelle le principe de la représentativité. Adam nous représentait tous les hommes. Et Christ, lui, représentait ses élus. Alors, Christ était un représentant des élus, comme Adam est un représentant de tous les hommes. Alors, dans les Écritures, je pense, je ne me souviens plus dans quel verset, je crois que je l'ai noté, probablement pas, mais à quelque part, il y a un verset qui dit que Christ est le second Adam. Donc, il y a eu le premier homme qui était un véritable homme sans être habité par Dieu, et le deuxième homme, le second Adam, c'est Jésus-Christ, et lui, le Père avait décidé de mettre tous ses élus en lui dès la fondation du monde. Ils avaient choisi de tous les siècles tous ceux qui devaient que pas recevoir le salut. Et sur la croix, ce qui s'est passé, c'est que c'est les péchés de seulement ses élus qui ont payé pour. Et ce qui s'est passé sur la croix aussi, c'est que la justice qu'on devait accomplir, il l'avait accomplie uniquement pour ses élus. Et ceux que le Saint-Esprit va régénérer, c'est exactement les mêmes, parce qu'on pourra dire qu'il y a trois sphères. Dieu a pris un groupe de personnes de tout temps, ils ont placé en Christ. Christ a payé pour la même sphère. Et ceux qui vont être régénérés, bien, les trois sphères, ils deviennent en font qu'une. Ben, c'est les mêmes. Ceux que le Père a choisis, ceux que le Fils a rachetés, et ceux que le Saint-Esprit a régénérés et sanctifiés, sont les mêmes. Alors ça, c'est important à comprendre ça. Maintenant, faut expliquer, quand on étudie cette doctrine-là, faut étudier les versets qui semblent être universels, qui semblent vouloir contredire le fait que je vous dis là. Alors, on va aller en voir. Il y a deux sortes de versets qui semblent contredire, qui semblent être des passages qu'on dit, des passages qui semblent universels. Il y a ceux qui disent le mot « monde » dedans, il y a ceux qui disent le mot « tous ». On va aller en voir une coupe avec le mot « monde », on va aller en voir une couple avec le mot « tous ». On va aller voir Jean 1, verset 9 et 29. On voit l'exemple du mot « monde ». Jean 1, verset 9 et verset 29. Alors, on voit ici, il dit « La véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde. » Après ça, on va regarder le verset 29. Jean 1, 29. « La véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde. » Et dans le verset 29, on dit « Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Est-ce que le mot « monde », si on prendrait une étude, là, on prendrait une concordance et on sortirait le mot « monde » tout partout s'il y a le mot « monde », est-ce que vous croyez que le mot « monde » veut toujours dire « tout le monde » ? Comme des fois, dans notre conversation courante, on va parler de nos amis, on va dire « tout le monde est là ». Est-ce que ça veut dire que toute la ville de Québec est là? Est-ce que ça veut dire que toute la ville, toute la province de Québec est là ou tout le Canada est là? C'est une expression. « Tout le monde », ça ne veut pas nécessairement dire « toujours tout le monde ». Jean 3, 16. Ça, c'est le verset qui nous est cité le plus souvent pour vous dire que c'était pour tous les gens. Mais c'est parce qu'il n'est pas placé dans son contexte, on ne peut pas l'expliquer. Quand on le comprend dans son contexte, on comprend très bien pourquoi. Alors, ici, c'est le contexte que Nicodème est venu de nuit voir Jésus, et il voulait savoir comment faire pour être sauvé. Jésus lui dit, il faut que tu naisses d'en haut, ou il faut que tu naisses de nouveau. Là, lui, c'est un docteur de la loi, il ne comprenait rien, il dit, « Oui, Seigneur, comment je peux faire aller dans le ventre de ma mère? Je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère, naître de nouveau, il ne comprend pas la nature spirituelle de ce qu'il est en train de lui parler. » Alors, le Seigneur, il lui a répondu, verset Jean 3, 16, qui est un verset, peut-être le verset chez les chrétiens le plus connu, mais que peut-être pas beaucoup de monde comprenne le sens, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est à l'époque que quand Jésus est venu sur la terre, les Juifs avait la prétention et la conviction extrêmement profonde qu'il y avait, que le salut s'adressait uniquement à eux. Et pour eux, les païens, c'était pire que des animaux. C'était même pas pour eux, là, des païens, ils les méprisaient d'une manière épouvantable. Et pour eux, c'était pas du monde. C'était comme. Ils pensaient qu'eux autres étaient bien au-dessus de tout ça. Mais alors, le Seigneur, ils ont corrigé un peu dans leur fausse conception. Et quand il dit ça à Nicodème, a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dans le fond, ici, ce qu'on veut enseigner, ce que le Seigneur veut enseigner à Nicodème, c'est que le salut n'était pas accessible exclusivement aux Juifs, mais qu'il était aussi pour être étendu à tous les hommes. Jean 4, 42, par exemple, c'est un autre verset dans ce sens-là. Et il disait à la femme, « Ce n'est pas à cause de ton récit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes, mais nous savons que celui-ci est véritablement le sauveur du monde, le Christ. » Et si on prenait ça au pied de la lettre, le sauveur du monde, ça impliquerait que tout le monde soit sauvé. S'il est le sauveur du monde. 2 Corinthiens 5, 19. Et là, on voit de façon claire que le mot « monde » ne veut pas nécessairement dire l'universalité de tous les hommes. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec soi. Est-ce que Christ, quand il est venu sur la terre, il a réconcilié toute la terre avec lui? Non. Il réconciliait le monde, parce que tout après, on voit « en ne leur imputant point leurs péchés ». Les péchés de qui? Les péchés de ses élus, de son Église, de son peuple, de ses brebis. On ne peut pas prendre le monde, le mot « monde », puis lui faire dire, lui donner un sens universel tout le temps. Parce que si on ferait une étude approfondie de ça, là, et n'importe qui doute de ça, là, il va faire une concordance, puis il va regarder tous les versets où on voit le mot « monde ». Et il va très bien se rendre compte, si je me souviens bien, j'ai un livre de théologie quelque part ici, où je pense qu'on donne jusqu'à 600 différents au mot « monde ». Non, non, c'est pas ça. 600 différents au mot « monde ». Maintenant, il y a des versets qui parlent de tous aussi. On va le voir Romains 5, 18. Ici, celle-là, il est d'une plus claire encore, parce qu'il dit « Ainsi donc, comme par un seul péché, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes. » Ici, c'est le sens que le mot « tous », là, dans ce verset-là, il veut dire « tous les hommes », sans exception. Parce que tous les hommes viennent au monde pécheur, ça, il y a beaucoup de versets qui le disent. Maintenant, il dit « De même, par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. » Est-ce qu'on peut prendre ce verset-là et l'harmoniser avec l'ensemble des autres versets que les Écritures disent que pour tous les hommes vont être sauvés? Ici, le verset semble dire que tous les hommes recevront la justification qui donne la vie de la part de Christ. Et Christ lui-même dit que ce ne sera pas tous les hommes qui vont être sauvés, qu'à la fin des temps, il va nous envoyer une grosse gang à l'enfer. Alors, c'est clair que le mot « tous » ici, c'est « tous les élus ». Parce que ça dit, de même par une seule justice, la justice de Christ, tous les hommes recevront, ne l'oubliez pas dans le temps, tous les hommes, la justification, la vie. Alors la justification, la vie, c'est les élus qui vont la recevoir. Ça ne peut pas être tous les hommes, parce que ça sera tous les hommes, ça sera tous les hommes. Alors le mot tous, le mot monde ne veut pas dire nécessairement tout le monde, puis le mot tous ne veut pas toujours nécessairement dire tout le monde non plus. On va voir d'autres versets dans le même sens. Disons 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur, ici, là, c'est vraiment une question d'interprétation en fonction du contexte. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que des gens vont mal comprendre un verset parce qu'ils ne regardent pas ce qui est écrit avant, ils ne regardent pas ce qui est écrit après. On appelle le contexte. Donc, qui parle à qui, puis il voulait leur dire quoi? Il faut que tu regardes le contexte immédiat, les versets auparavant, les versets après. C'est écrit dans quel livre? Puis est-ce que ça rentre à ce qu'on appelle l'analogie de la foi? Il faut toujours que tu interprètes les Écritures en fonction de l'analogie de la foi. L'analogie de la foi, ce que ça veut dire en termes simples, encore là, il y a des bouquins écrits là-dessus. Ça veut dire que quand tu regardes un verset, il faut que tu regardes ce qui est écrit avant. faut que tu regardes ce qui est écrit après. Faut que tu regardes dans quel livre il est écrit, parce que la personne écrivait des personnes en particulier qui avaient un message particulier à leur dire. Et non seulement faut que tu fasses ça, mais après ça, faut que tu regardes le verset par rapport à ce que le reste de la Bible dit. Parce que si tu fais juste prendre un verset, tu sors hors de son contexte. Là, c'est vrai que tu peux faire dire toutes sortes de choses à la Bible. Mais tu peux pas y faire dire toutes sortes de choses si tu regardes ce qui est écrit avant, ce qui est écrit après, ce qui est écrit dans l'ensemble du livre que tu es en train de lire, ce qui est écrit dans l'ensemble de la Bible. Ça, c'est ce qu'on appelle interpréter la parole de Dieu selon l'analogie de la foi. Et la multitude d'erreurs qui s'est glissée en théologie dans toutes sortes de dénominations, ça vient presque toujours de là. À moins que ce soit de la mauvaise foi. Parce que ça peut être aussi de la mauvaise foi, que ce soit les serviteurs de Satan qui, à quelque part, cherchent à introduire des fausses doctrines, mais il peut y avoir soit l'erreur humaine, qui est l'erreur d'interpréter hors contexte, ou ça peut être le malin qui cherche à rentrer des fausses doctrines, toutes sortes de fausses doctrines. On sait que l'histoire des livres en est remplie. Alors, on a dit qu'on regardait sur 2 Pierre 3:9. OK. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il eut de patience envers nous. Et ici, tu as remarqué qu'il parle de nous. Nous, il parle à des chrétiens. Mais ne voulant qu'aucun ne périsse. Ici, il n'y a aucun, là, vu qu'il vient de dire nous, pourrais-tu qu'il parle encore des chrétiens? Ben oui, il parle encore des chrétiens. Mais est-ce qu'il y en a qui arrivent, ils prennent ce verset-là, puis là, ils disent ne voulant qu'aucun ne périsse, donc ils disent que Dieu ne veut pas que personne périsse. Mais que tous viennent à leur repentance. Donc, c'est comme ils sont en train de dire que Dieu veut que tout vienne, que tous ceux qu'il veut viennent à leur repentance. Entre moi et vous, connaissant la force de Dieu, son omnipotence, son omniscience, tous ses attributs, sa justice, croyez-vous que s'il voudrait qu'un homme vienne à la repentance, que l'homme ne viendrait pas? Quand Dieu veut quelque chose, ça se produit. C'est pour ça que la doctrine de la semaine prochaine, on va étudier la grâce irrésistible. Pourquoi on appelle ça la grâce irrésistible? Parce que quand Dieu fait le cadeau de sa grâce, de sa foi, c'est lui qui donne la foi et c'est lui qui donne la repentance. L'homme, là, c'est pas que Dieu nous tord un bras comme lui. C'est pas quelque chose, c'est pas ce qu'on appelle des mesures coercitives, il nous force pas. Mais il nous, en nous donnant la vie, il nous donne, fait le cadeau de la vie spirituelle, il nous donne le cadeau de la foi, il nous donne le cadeau de la repentance. Et quand on reçoit ça, c'est vraiment irrésistible, on ne peut pas résister. Ça sert de la folie furieuse que de vouloir de résister quand tu sais que tu vas aller périr en enfer, puis tu méritais rien de bon, puis Dieu te fait un cadeau immense en voulant que tu ailles vivre avec lui pour l'éternité, même si tu méritais exactement l'inverse. Alors, moi, quand je viens de monde, je dis, personne de Dieu, s'il veut sauver quelqu'un, il sauve. C'est ça la vraie doctrine de la grâce. Alors, le mot tous, il peut vouloir dire, Christ est mort, et il voulait enseigner aux Juifs que Christ mourait autant pour des non-Juifs que pour des Juifs, et aussi qu'il mourait pour des tous sans exception, en ce sens que Dieu nous dit dans les Saintes Écritures qu'il a choisi des hommes de toute race, de toute langue et de toute nation. Alors, peu importe la nation, toi tu viens de Madagascar, alors Dieu a choisi des personnes, dit dans les Écritures, de tout pays, de toute nation, de toute langue qui va avoir des gens. Alors, c'est pour quand on parle de tous, c'est pour démontrer aux Juifs qu'il n'y avait pas uniquement les Juifs qui pouvaient accéder au salut. Dieu avait décidé de choisir des hommes dans toutes les... Heureusement pour nous. Il avait décidé de prendre des Québécois, il avait décidé de prendre des Canadiens, puis gloire à Dieu. Il avait décidé de prendre les personnes de Madagascar, puis gloire à Dieu. Puis il avait décidé de prendre les personnes du Zaïre, puis gloire à Dieu. Matthieu, là, je vous apporte une série de versets qui démontrent où il dit son peuple, ses brebis, ce... qui est alors Matthieu 1:21, je ne me trompe pas, on l'a vu. On va aller voir Matthieu 20:28. Comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Jean 10, 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 11, verset 50 à 53. Et vous ne considérez pas qu'il nous importe qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de son propre mouvement, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'était déjà des enfants de Dieu au moment qu'il y rentre. Très important de voir l'allusion. Acte 20, 28. Et celui-là est puissant. Ça a un fort, là, il est puissant, là, il a des grosses dents. Alors, il y a quelque chose d'important à leur dire. Paul veut dire quelque chose d'important à ses évêques ou à ses pasteurs. Il leur dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. » Il a acquis quoi? L'Église, par son propre sang. Alors on voit la rédemption était pour son Église. Alors tout à l'heure on a vu pour son peuple, on a vu pour ses brebis, là on voit pour son Église, tout à l'heure on a vu un autre dans Éphésiens. Éphésiens 5, tout à l'heure on l'a vu, on y a retourné un point. Parce qu'on voit que c'est répété à plusieurs endroits là, dans les Écritures. Là. On l'a lu tout à l'heure, aimez, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré pour son Église. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour la faire paraître devant lui, l'Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Romains 8, versets 32 à 34. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Pour nous tous. Dans le contexte du livre des Romains, nous tous, c'est des chrétiens. Comment ne nous donnera-t-il point toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et de plus, il est ressuscité, et même est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Hébreux 2, 17. C'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu, pour expier les péchés du peuple. Expier les péchés du peuple. Apocalypse 5, 9. Chantait un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en immoler et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang. Tu nous as rachetés. » Tous ceux qui vont au ciel vont dire, « Tu nous as rachetés à Dieu par ton sang. » De toute tribu, comme on dit tout à l'heure, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voici ce que je vais vous nommer, je vais vous donner une citation de deux théologiens connus. Leon Morris, peut-être ça vous dit rien, mais c'est un théologien assez bien connu aux États-Unis. Et Spurgeon, ce qu'il disait sur la doctrine de la rédemption particulière. Je vais vous la lire en français, mais je l'ai gardé en anglais aussi, advenant qu'il ne pouvait l'avoir le mot à mot. Il dit « La doctrine de l'expiation est la doctrine cruciale de la foi. À moins d'être ici dans la vérité, ce que nous croyons ailleurs est vraiment sans importance. » Comment on dit la doctrine de la rédemption particulière de Jésus-Christ, si tu es dans l'erreur là, tu es dans une erreur grave, c'est crucial. Tout à l'heure on le dit, c'est le cœur de l'Évangile, c'est le cœur de la doctrine de la grâce, il faut que tu comprennes ça comme faut. Voici ce que Spurgeon connaît, qui a pas de deux rangs dans le service, Spurgeon. Spurgeon disait, la doctrine de l'expiation de Jésus n'est pas une branche de la vérité chrétienne, mais elle en constitue le cœur. Alors, on voit que c'est le cœur de l'Évangile. La doctrine de l'expiation, c'est le cerveau et la colonne vertébrale de la chrétienté. Si le fait que le Seigneur Jésus-Christ a porté nos péchés à notre place n'est pas l'Évangile, je n'ai pas d'évangile à prêcher. Charles Burley. Alors, c'est une doctrine qui donne toute la gloire à Dieu. Pourquoi ça donne toute la gloire à Dieu? Parce qu'on dit que c'est Dieu. C'est la Bible qui nous l'enseigne, c'est pas nous. La Bible dit que Dieu le Père a choisi les hommes, les a placés en Jésus-Christ. La Bible dit aussi que Jésus-Christ a payé pour les péchés de ceux qui étaient en lui. L'exact équivalent de ce qu'ils auraient dû payer. Et il a aussi accompli la loi à leur place. Et le Saint-Esprit, lui, a fait l'autre partie du travail qui était de régénérer, soit de redonner la vie à des êtres spirituellement morts et après à les sanctifier, qui était sa partie du travail. Alors, quand on croit véritablement ce que la Bible enseigne, qu'est-ce que ça fait? Ça donne toute la gloire à Dieu, puis non pas la gloire aux hommes, parce que les hommes sont portés à s'attribuer du mérite dans le salut. Ne serait-ce que le mérite de dire j'y ai cru. Quel mérite t'as eu? C'est Dieu qui t'a donné la foi. Si tu t'es repenti, quel mérite t'as eu de te repentir? C'est Dieu qui t'a donné la repentance. Dieu t'a tout donné. Alors c'est vraiment une doctrine qui rend toute la gloire à celui qui est la source du salut. Et non pas chercher à s'attribuer de quelque manière que ce soit une part dans ça. Parce qu'on a simplement reçu quelque chose de la part de Dieu. Et on n'a pas par aucune œuvre ou aucune décision de notre part. C'est vraiment une œuvre purement divine. C'est une doctrine aussi qui remet l'œuvre à sa place. Une doctrine aussi qui vient nous démontrer que l'homme est si désespérément corrompu que Dieu avait à intervenir, Dieu avait à lui donner quelque chose, sans ça il n'aurait pas été capable de se sortir par lui-même. C'est une doctrine aussi que quand on la regarde comme il faut, nous habitue à être capable d'harmoniser des versets qui, à première vue, nous semblent contradictoires. Parce que les Écritures, c'est là pour nous enseigner, mais c'est là aussi pour nous apprendre à réfléchir. C'est là pour nous apprendre à tirer des conséquences. C'est une doctrine aussi qui nous garde de l'erreur, et de nos jours, je peux vous dire que dans beaucoup de dénominations, malheureusement, on commence à perdre l'Évangile, on ne prêche presque plus sur l'enfer, on ne prêche presque plus sur la gravité du péché. On croit que c'est l'homme par sa décision qui vient à Dieu, alors que c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et là, on est en train de tout virer les choses à l'envers, et c'est très dangereux. C'est ce qui explique d'ailleurs la popularité de l'apostasie actuellement, où les gens se mêlent avec des gens de toute religion, disant que cette religion mène à Dieu. Je regrette, mais dans le livre des Actes 4:12, ça dit « Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ ». Alors quand tu commences à t'assembler avec des supposément croyants qui ne croient pas en Christ, et que tu ne vois plus de problème là, je pense que là, tu es rendu assez profondément ancré dans l'apostasie. Alors, il y a l'apostasie, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'œcuménisme. Plus on va garder la pureté de la doctrine face à la doctrine du salut, à la doctrine de Jésus-Christ et toutes les autres doctrines, plus ça va être une formidable barrière pour nous empêcher de glisser et de nous unir à des mouvements religieux que Dieu n'approuve pas. Alors, c'est notre devoir de connaître la vérité, c'est notre devoir d'enseigner la vérité, c'est notre devoir aussi de prêcher la vérité. Amen.
Amen.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore une fois, on veut te remercier de nous avoir donné ce temps d'étudier ta sainte parole, d'examiner, d'étudier un petit peu plus en profondeur cette doctrine de la rédemption particulière de ton Fils Jésus le Christ. Seigneur, nous savons que cette doctrine est difficile, et nous savons aussi qu'elle a été l'objet d'âpres débats et de contestations dans le passé, qu'elle l'est encore. Cependant, Seigneur, tu nous as dit que tu nous confiais la responsabilité de garder le flambeau de la vérité haut élevé et de le transmettre à ceux qui viennent après nous. Nous te demandons la grâce de demeurer dans la vérité, dans la fidélité, et de continuer à prêcher ton évangile le plus purement possible, et d'obéir à ta sainte parole, Seigneur, en nous séparant de ceux qui ne l'enseignent plus correctement. Encore une fois, on te remercie d'avoir permis les visiteurs ce soir, et nous te demandons de bénir cette semaine, de permettre qu'on puisse annoncer ton nom autour de nous, et qu'on puisse faire toutes nos pensées, toutes nos actions, et toutes nos paroles soient pour ta plus grande gloire. Nous te demandons toutes ces choses par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.
Amen. Amen.